L'abbé, merci de votre accueil. Chers fidèles de Lyon, je suis heureux de me trouver ce soir parmi vous. J'espère que vous m'entendez. Je n'ai pas une voix très forte. Donc, nous allons parler ce soir du centenaire. Et ce centenaire, comme vous allez, et vous le savez sans doute, en fait, vous connaissez l'adage. Un train peut en cacher un autre, eh bien un centenaire peut en cacher un autre. C'est-à-dire que nous avons l'année dernière, 97, fêté le centenaire de la mort de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le 30 septembre 1897, et cette année, le 30 septembre 1998, nous allons fêter le centenaire de la première édition des manuscrits autobiographiques qu'on appelait à l'époque l'Histoire d'une âme. Ce qui fait que l'intitulé de notre entretien de ce soir, le centenaire, est toujours d'actualité. C'est plus le centenaire de la mort, c'est le centenaire des manuscrits ou le centenaire de l'histoire d'une âme. Ce qui est intéressant, c'est que les manuscrits sont donc sortis exactement un an après la mort de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je n'ai pas de formation particulière et je ne prétends en aucun cas être un spécialiste de la science concerne cette sainte, mais il m'est arrivé de me passionner et de le rester pour elle. Et avant le centenaire de sa mort, il y avait eu le centenaire de sa naissance. C'était en 1973. 1973, une série de livres d'édition commençait sur les écrits authentiques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et en 24 ans, 1973-1997, il y a eu une floraison d'écrits authentiques et surtout d'études faites sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et j'ai eu la grâce d'être un petit peu attentif à ce développement sur 24 ans, de 73 à 97, sur ce que l'on a pu écrire sur elle. Alors si vous le voulez bien, dans un premier temps, je voudrais vous montrer comment la connaissance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de sa doctrine, de sa vie, a progressé. En effet, dans l'avant-guerre, c'est-à-dire entre sa canonisation en 1925 et l'après-guerre, 1945-50-55, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était répandue déjà dans le monde entier, mais beaucoup plus en tant qu'elle était un modèle. Une sainte qui avait opéré et qui opérait et qui opère toujours une grande quantité de miracles, qu'en tant qu'une sainte qui a un corps de doctrine particulier et un enseignement. Donc ces premières années de gloire, puisque Pillons a parlé, vous vous en souvenez, d'un ouragan de gloire qui a entouré la canonisation et l'après-canonisation de Sainte Thérèse, c'est donc un attachement de l'univers catholique envers la personne de Sainte Thérèse. Ensuite est venu un approfondissement doctrinal, c'est-à-dire que les papes eux-mêmes avaient déjà bien réalisé que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait une doctrine. Cette doctrine n'était pas encore vraiment bien diffusée dans l'univers catholique. De quoi disposions-nous jusqu'en 1955? Eh bien simplement de l'histoire d'une âme, c'est-à-dire des manuscrits de Sainte Thérèse revus et corrigés par ses sœurs. Il a fallu attendre 1945 pour qu'on ait une première édition et très abrégée de la correspondance, choisie quelques lettres seulement. Les poésies circulaient, les derniers entretiens qu'on appelait novissima verba circulaient également, mais manquait, je voulais dire, l'essentiel, c'est-à-dire l'authenticité des documents. Ce qui n'a pas empêché, bien sûr, le Saint-Siège, qui possédait, lui, les documents authentiques, qui avait pu juger Sainte Thérèse sur pièce, d'avoir prononcé son jugement en toute connaissance de cause, mais les théologiens et les fidèles catholiques étaient un petit peu sevrés, puisqu'ils n'avaient Sainte Thérèse qu'à travers donc ces ouvrages assez limités, c'est-à-dire une biographie, et quelques éléments revus et corrigés par ses sœurs. Ses sœurs sont à louer, elles ont fait un beau travail, Sainte Thérèse les avait autorisées à faire ce travail de correction et de mise au point, ce qui a donné l'Histoire d'une âme, qui est le livre le plus répandu au cours du XXe siècle. C'est le best-seller de l'histoire de l'édition à notre époque. Cependant, comme je viens de vous le dire, nous n'avions pas les documents authentiques. Ce qui fait que les premiers théologiens ou spirituels qui se sont penchés sur Sainte Thérèse ont pu émettre des livres, écrire des livres. Il y a eu le père Petitto. Il y a eu dans un premier temps, une première partie de sa vie, Monseigneur Combes, qui était à l'époque l'abbé Combes. Monseigneur Martin, qui est un prêtre de Vendée. Tous ces prêtres ont écrit donc avec ce qu'ils possédaient. Monseigneur Combes, qui n'était pas encore Monseigneur à l'époque, qui est devenu prélat par la suite, qui est mort en 1968, a réussi, à force de persuasion et d'obstination, à faire comprendre à Mère Agnès, qui était la sœur aînée de Thérèse, Pauline, qu'il serait tout de même bien que soit publié l'authentique des documents concernant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Monseigneur Combes y a travaillé, le pape Pie XII qui régnait à l'époque a encouragé Mère Agnès dans cet effort, et c'est en 1954-1955 que sous la responsabilité du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, Carme, qui était définiteur général de l'ordre, qu'a pu être publié pour la première fois les documents authentiques. Alors, qu'est-ce qui est paru en 1955? C'était les manuscrits autobiographiques. C'est-à-dire les trois petits livres, je vais là l'édition de 55, trois petits livres, manuscrit A, manuscrit B, manuscrit C. Et cela avait été refondu en un seul, qui était l'histoire d'une âme. Mais c'était tellement refondu que ça s'était un petit peu éloigné de l'authentique. Et à partir de cette année 55, avec le père François de Sainte-Marie qui a travaillé à cette édition, eh bien, nous avons eu dans l'Église une bien meilleure connaissance de la doctrine spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce qu'elle avait vraiment dit, ce qu'elle avait écrit elle-même de sa vie, manuscrit autobiographique, ça signifie écrit par soi-même, ça ne signifie pas revisé par mes sœurs. Et c'était pourtant ce que nous possédions seulement jusque dans ces années. Bon, encore une fois, on ne peut pas dire que ça ait biaisé l'essentiel de la doctrine de Sainte Thérèse, mais on n'avait pas ce qu'il fallait pour y travailler sérieusement. Il a fallu attendre encore quelques années. Le père François de Sainte-Marie, qui avait travaillé à cela, est mort dans les années 60, accidentellement. Mais après son décès, le Carmel a continué de travailler. Et au moment du centenaire de la naissance, en 1973, sont sortis des ouvrages fondamentaux qui sont la correspondance générale. C'est-à-dire que le Carmel possédait tout, mais n'avait rien publié des lettres de Sainte Thérèse, ou presque rien dans les années 40. C'est-à-dire les lettres de Sainte Thérèse et les lettres des correspondants de Sainte Thérèse. Il y a 250 lettres, au moins, qui contiennent un enseignement depuis la première enfance de Thérèse jusqu'à quelques semaines avant sa mort. On a publié également les poésies, dans leur version la plus authentique. On a publié également les derniers entretiens, ce qui était résumé dans les Novissima Verba qu'on avait depuis les années 30-40, est devenu deux gros volumes, parce que Mère Agnès, Céline et Marie, l'autre sœur de Thérèse, avaient noté tout ce qui s'était passé autour de la dernière maladie de Sainte Thérèse, et le Carmel n'avait presque rien publié. Donc il a fallu attendre ces années 73, 75, presque 80, pour que nous ayons vraiment l'essentiel exact, absolument authentique, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors ce point est important, parce que cette sainte, nous la connaissons par ce qu'elle a écrit vraiment, et nous la connaissons par ses photographies. Et c'est une sainte que l'on a en photo, ce qui est relativement rare, et ce qui n'aurait pas vu se produire, puisque c'est un petit peu par une dérogation au règlement que Céline a pu rentrer au Carmel en 1894, 6 ans après Sainte Thérèse, avec un appareil photographique. Et Mère Marie de Gonzague l'a autorisé à photographier Sainte Thérèse. Bon, le Carmel, dans sa première version de l'histoire d'une âme, publiait des dessins de Céline, des tableaux faits par Céline, mais refusait à peu près obstinément de publier les photographies. Parce qu'à l'époque, on considérait qu'un tableau, c'était beaucoup plus authentique qu'une photographie. Bon, c'était la mentalité du temps. Mais là encore, il a fallu beaucoup de persuasion pour que les carmélites de Lisieux donne à l'édition les photographies. Alors nous avons de cette sainte tout ce qu'elle a écrit et tout ce qu'elle était par la photographie. C'est un témoignage d'une très grande proximité. Les études récentes sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bon, peuvent évidemment subir l'influence du concile que nous savons. Donc, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que tout soit intégralement bien au niveau des commentaires des textes. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Vous avez des théologiens qui ont travaillé dans l'après-concile sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et qui, quelquefois, se sont laissés influencer par leur nouvelle théologie. Bon, au demeurant, on ne peut pas mettre totalement à la poubelle le travail qu'ils ont fait, parce qu'ils ont d'abord travaillé sur des documents authentiques, et lorsqu'on a un esprit critique suffisant, ce qui est normalement le cas d'un fidèle un petit peu averti, en tout cas d'un prêtre, eh bien on peut discerner ce qui est recevable de ce qui ne l'est pas. Alors, il y a à notre époque quelqu'un de parfaitement sûr, mais il est mort tout de même, hein, c'était Mgr Combes, hein, je vous l'ai cité, il est mort en 68, c'est le dernier théologien thérésien intégralement traditionnel. Ensuite, vous avez des plus contemporains, avec donc des tendances qui sont celles des fois du Concile, mais qui, sur le sujet précis de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, n'ont pas trop déraillé. Alors, il faut quand même les nommer, hein. Vous avez un évêque, qui est Mgr Guy Gaucher, qui est l'évêque auxiliaire de Bayeux, qui fait partie de l'Institut Notre-Dame de Vie, il est carme. Vous avez un prêtre du diocèse d'Amiens qui s'appelle l'abbé Découvemont, qui a fait un très gros travail d'édition. Il a sorti en 6 ans deux très gros volumes, peut-être les avez-vous vus, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en images, c'est un très gros livre en grand format, et en photographie. Et le deuxième, ce sont les images pieuses de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne possédait pas. Sainte Thérèse avait une collection de 400 ou 500 images pieuses. Et ça permet de mieux la comprendre, de mieux la connaître. Il y a également un carme qui ne manque pas d'intérêt, qui s'appelle le père Conrad de Mester, qui a fait ses études à Rome, au Thérésianum, et qui a passé sa thèse de spiritualité justement sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a écrit un livre qui est assez intéressant, qui s'appelle « Les mains vides ». C'est son maître livre. Et ce sont ces prêtres qui, ces dernières années, ont fait beaucoup, malgré tout, pour la cause de Sainte Thérèse. Et si cette sainte, malgré tout, reste connue dans nos milieux traditionnels, et j'allais dire même plus large, hein, si Sainte Thérèse est encore connue aujourd'hui, c'est grâce à eux. Bon. Ensuite, vous avez des éléments charismatiques. Alors là, on tombe dans une dérive plus grande. Hein. Vous avez le père Daniel Ange ou autres qui ont écrit quelques ouvrages, mais d'une qualité... C'est sans intérêt. Bon, ne parlons pas d'eux, puisque cela ne présente aucun intérêt, même s'ils, quelquefois, parlent de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comment en parle-t-il ? Bon. Avec des prismes déformants. Voilà ce que je voulais vous présenter dans un premier temps, c'est-à-dire les progrès réel de la connaissance de cette sainte. On peut parler le néologisme, c'est-à-dire le mot nouveau a été forgé, la thérésiologie, c'est-à-dire la science de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est vrai que cette science a connu, tout au cours du XXe siècle, un très grand progrès. Et encore une fois, comme toutes les sciences, elle avance quelquefois par hypothèse et par des scientifiques qui s'égarent, comme c'est le cas pour certains à notre époque. Je ne voudrais donc pas ce soir vous parler de sa vie, hein, puisque je pense que vous la connaissez bien. Hein, née en 1873, hein, morte le 30 septembre 1897, nous avons fêté le centenaire de sa mort. Carmélite à 15 ans, morte à 24 ans. Donc le parcours de sa vie est un parcours qu'elle définit elle-même comme une course de géant, depuis sa grâce de Noël 1886. Ce qu'il faut simplement dire de sa vie, me semble-t-il, c'est la rédaction des manuscrits. C'est-à-dire qu'à partir de 1895 jusqu'à sa mort en 1897, sur obéissance, c'est-à-dire par ordre de Mère Agnès et de Mère Marie de Gonzague, Sainte Thérèse va écrire. Elle n'aurait jamais écrit par elle-même si elle n'avait pas donné l'ordre d'écrire. Et ce qui est remarquable, c'est que cette Sainte Thérèse, qui était une enfant, 15 ans, n'avait pas fait de brillantes études. Elle n'avait pas de capacité intellectuelle particulière. Elle avait fait ses études primaires à l'école de l'abbaye de Lisieux, et rien ne la prédestinait intellectuellement, par sa formation antérieure, à écrire des choses aussi extraordinaires que ce qu'elle a pu écrire. D'autant plus qu'au Carmel, on n'étudie pas. Vous avez des ordres religieux, même féminins, où l'on étudie. Regardez les dominicaines, même cloîtrées ou enseignantes, ce sont relativement des intellectuels. Les carmélites n'étudient en rien. Elles n'ont pratiquement pas de bibliothèque, sinon les œuvres de Saint Jean de la Croix, les œuvres de Sainte Thérèse d'Avila, et quelques petits ouvrages qu'elles peuvent compulser, mais ce n'est pratiquement rien. Autre handicap, mais qui est l'handicap du temps, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ne dispose même pas de la Bible. Comment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a-t-elle pu connaître l'Écriture sainte? Eh bien, là encore, c'est la Providence qui a fait les choses, et sa sœur Céline, qui était la plus proche d'elle, qui avait simplement 4 ans de différence avec Sainte Thérèse, qui est rentrée après elle en 1894 au Carmel, et qui arrive au Carmel avec donc son appareil photographique, et en plus, des notes qu'elle avait prises, elle était dans le monde, de la Bible. Et Sainte Thérèse, qui ne disposait pas d'une Bible, a pu, elle avait le Nouveau Testament, mais elle n'avait pas l'Ancien Testament, elle avait quelques bribes, et bien Céline est rentrée avec ses carnets de notes, et Mère Marie Gonzague a accepté que Céline donne à Sainte Thérèse ses notes sur l'Écriture sainte. Tout cela est providentiel. Donc quelqu'un qui n'a fait aucune étude d'exégèse, d'approfondissement de l'Écriture sainte, qui n'en a qu'une connaissance très partielle, très fragmentaire, va être capable d'avoir de l'Écriture sainte une connaissance d'une profondeur étonnante. Alors cette profondeur est attestée par le prêtre qui a été le censeur de l'histoire d'une âme, justement, il y a exactement 100 ans, c'était un prémontré. Il s'appelait le père Godefroy Madeleine. Et voilà ce qu'il écrit justement sur la connaissance biblique de Sainte Thérèse. Je viens de vous en donner les fondements qui sont très faibles. Et voilà ce qu'il a lu, lui. « N'est-ce pas merveille de voir comment une jeune fille de 20 ans et quelques années se promène avec aisance dans le vaste champ des Écritures inspirées pour y cueillir d'une main sûre les textes les plus divers et les mieux appropriés à son sujet. Il y a telle page sur l'Évangile, sur la Vierge Marie, sur la charité, que pourrait signer un écrivain de race. » Donc, cette connaissance de la Bible, et cette connaissance en même temps de multiples choses, elle dépasse l'esprit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle est, au sens propre, inspirée. Le pape Pie XI, qui était un pape d'une nature passionnée et qui ne tournait pas autour des mots, a employé des expressions très fortes pour définir justement cette inspiration de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, donc qui dépasse, encore une fois, ses capacités humaines, simples, naturelles. Donc, un discours de 1923, le 30 avril. Pie XI disait, « Par ses écrits pleins de zèle apostolique, elle enseigne avec un saint enthousiasme un monde enflé d'orgueil, n'aimant que la vanité, la voie de la simplicité évangélique. » Voilà. « Le bon Dieu nous dit bien des choses par elle, qui fut comme sa parole vivante. » Pie XI parle de Sainte Thérèse comme d'une parole vivante de Dieu. Bon, les papes choisissent leurs expressions. Quand ils parlent de paroles vivantes, ils vont parler d'inspiration. Sainte Thérèse est inspirée dans un certain sens, non pas au sens de l'inhérence biblique, bien sûr, d'un apôtre qui a écrit un évangile, bien sûr, mais il y a véritablement une inspiration. Ce terme de parole vivante est bien employé par Pie XI en 23. Ensuite, le même Pie XI, un petit peu de la même année, 23, « Que veut nous dire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui s'est faite une parole de Dieu ?» Oui, là encore, l'expression est très forte. « Parole vivante », ensuite « parole de Dieu », dans cette même année, 23. Et ensuite, en 25, le 18 mai 25, je crois que le Pie XI recevait le diocèse de Lisieux, alors il emploie l'expression qui est la plus forte, qui est le mot « omen novum », c'est-à-dire « oracle nouveau ». Il a dit de Sainte Thérèse qu'elle était véritablement un oracle nouveau. Et cette expression « omen novum », si vous allez à Lisieux, ce que je vous souhaite, eh bien vous verrez sur l'esplanade de la basilique une très grande statue de Sainte Thérèse à l'entrée avec un livre ouvert qu'elle tient ouvert sur sa poitrine avec ces mots « omen novum », « oracle nouveau ». Et en vérité, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est vraiment un oracle nouveau. Omen novum, une parole vivante de Dieu. Pour comprendre le mot Omen Novum, c'est-à-dire oracle nouveau, il ne faut pas s'imaginer, bien sûr, que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus inaugure le concile, l'après-concile, la modernité dans l'Église. En aucun cas. Bien évidemment, Sainte Thérèse n'aurait pas pu être canonisée et les papes n'auraient pas pu employer des expressions aussi fortes si la moindre saveur de modernisme se rencontrait dans ses écrits. Et sous ce rapport, on peut souligner quelques points, et il est quand même utile de le faire, où nous voyons combien Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'inscrit dans la plus pure tradition théologique de l'Église. En effet, vous avez vu comme moi, à l'occasion du centenaire, des éléments progressistes essayent de récupérer Sainte Thérèse. Bon. En faire une préfiguratrice de Vatican II, c'est un vaste délire. Ce n'a strictement aucun sens. Alors, je voudrais vous le montrer d'abord très brièvement, vous rappeler quelques points clés de son enseignement qui contredisent très exactement les déviations contemporaines dans l'Église. D'abord, chez Sainte Thérèse, il est patent que Jésus-Christ est le seul sauveur. En effet, elle a pour Jésus une passion pour le mystère de la rédemption qui ne passe que par Jésus-Christ. Alors, je me souviens même Mgr Gaucher, qui est pourtant normalement un chercheur sérieux, dans l'Ouest France, il y a 6 mois, a largement déraillé en disant qu'elle avait ouvert des horizons œcuméniques. Mais cela n'a aucun sens. L'œcuménisme d'aujourd'hui n'a rien à voir avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, puisque elle est absolument christocentrique, elle est centrée sur Jésus-Christ. Le mot Jésus-Christ revient au moins 1200 fois, sinon davantage, dans ses écrits. Elle ne pense qu'à lui. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, la rédemption est acquise par le précieux sang, et elle se prolonge par la messe. Alors, deux témoignages. L'influence du précieux sang chez Sainte Thérèse, on le trouve dès son enfance. À propos d'une image qui dépassait d'un missel, si vous vous en souvenez, il y avait un crucifix et du sang. Et sur cette image, il y avait écrit « J'ai soif ». Et Sainte Thérèse, à partir de cette image, a soif du salut des âmes, qui vient du Christ sanglant qu'elle a vu sur cette image dans son missel. Ensuite, cette rédemption qui continue dans la messe. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a fait dire des messes pour prendre Zini. Elle a chargé Céline d'aller voir le curé sans lui dire l'intention particulière. Parce que le curé n'aurait peut-être pas compris qu'on puisse dire une messe pour un criminel comme Pranzini. Mais, donc, vous voyez, cette idée de la rédemption, Pranzini sera sauvé, Sainte Thérèse en est persuadée, mais par la messe. Elle va faire célébrer des messes, elle a 3-4 sous dans sa tirelire, et elle s'allie avec sa sœur pour que des messes soient dites pour ce pauvre bandit. Donc, hors de l'Église, point de salut, ce point fondamental de la théologie de l'Église, est présent en permanence chez Sainte Thérèse. Lorsqu'elle parle de son zèle d'être apôtre, de son zèle d'être missionnaire, d'avoir voulu planter la croix sur tous les continents, dans le deuxième manuscrit, eh bien là, nous sommes aux antipodes de l'œcuménisme d'aujourd'hui. L'Église, chez Sainte Thérèse, est envisagée, bien sûr, comme le corps mystique. Nous y reviendrons tout à l'heure. Doctrine développée par Pie XII en 43 dans Mystici Corporis, mais ce n'est pas seulement un corps mystérieux, c'est aussi une société visible, l'Église, pour elle, avec un chef qui est le pape. Meilleure preuve qu'elle est persuadée de la visibilité de l'Église et de sa structure hiérarchique, c'est que pour entrer au Carmel, elle va voir le supérieur ecclésiastique du Carmel de Lisieux, qui est le curé de l'église Saint-Jacques de Lisieux, ensuite l'évêque de Lisieux, et ensuite le pape Léon XIII. Donc il ne s'agit pas d'une église pneumatique à dimension variable comme on peut nous en parler aujourd'hui. C'est une église hiérarchique. Sainte Thérèse n'innove en rien dans la conception que nous devons avoir de l'église. L'église a un chef qui est le pape et des représentants locaux mandatés par lui qui sont les évêques. Ensuite, sa conception de la société et de ses rapports avec la religion n'a rien à voir avec la liberté religieuse d'aujourd'hui, puisque Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de par sa famille d'abord, et ensuite de par ses convictions propres, est absolument militante du règne du Sacré-Cœur. C'est parce qu'elle naît en 73, il y a eu les oeuvres pontificaux, la bataille de... le nom m'échappe, avec le colonel de Charette, donc, et c'est l'époque où le Sacré-Cœur, enfin, est une idée prégnante du catholicisme français, qui est un catholicisme antilibéral et foncièrement décidé à ce que le Sacré-Cœur règne. Donc voilà quelques points qui sont vraiment marquants de la théologie dogmatique qu'on rencontre dans la vie et dans les écrits de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle n'est en aucun cas récupérable par les modernistes aujourd'hui. Si on le fait, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle. Et ça doit être dénoncé. Et c'est pas difficile, il suffit de prendre la parole et leur dire, mais écoutez, soyons sérieux. On regarde la vie, on regarde ce qu'elle a écrit. Non, il faut être honnête. Donc Sainte Thérèse n'est pas récupérable. C'est pas pour autant que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'a pas redécouvert des vérités. En effet, l'Église, si elle est éternellement jeune, a toujours tendance à vieillir. Je crois que c'est le propre de chacune de nos âmes, et c'est aussi le propre de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de ferveur et il y a des périodes d'assoupissement. Les périodes d'assoupissement, ce sont des périodes d'empoussiérage. C'est-à-dire que quand on ne fait pas le ménage régulièrement, eh bien de la poussière s'installe sur les meubles. Eh bien dans l'histoire de l'Église, de la poussière s'est installée. Il serait trop long de développer avec précision tous les points qu'il faudrait aborder pour bien préciser comment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a dépoussiéré, l'expression n'est pas péjorative, elle est juste, dépoussiéré des points de pratique religieuse, des points de conception spirituelle qui étaient portés par l'Église, les hommes d'Église de son temps. Le XIXe siècle n'a jamais brillé, vous savez comme moi, c'est un vieux maurassien, le fils d'Alphonse Daudet, Léon Daudet, qui a écrit le stupide XIXe siècle. Le mot est cruel, mais est-ce que le XIXe siècle a été un siècle très intelligent? Ben, c'est pas tout à fait évident. C'est une fin de monde, le XIXe siècle. Et l'Église du XIXe siècle, eh bien, était, même si elle avait de grands saints dans l'Église du XIXe siècle, elle était malgré tout très sur une vieille lancée et elle manquait de souffle. Pourquoi ? Pour ce qui est de la France particulièrement, un vieux problème français qui n'est pas complètement résolu, qui s'appelle le jansénisme. C'est-à-dire cette adaptation gallicane du protestantisme. Le calvinisme est resté dans le catholicisme français à l'état larvaire, dans un certain jansénisme. C'est-à-dire dans une conception de Dieu essentiellement justicier. Dans une conception de Dieu vindicative, dans une conception du salut où l'homme opère son salut. Dans la pratique sacramentelle, qui est quand même la vie même de l'Église, on ne communique très rarement. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est un modèle de première communiante, n'a le droit de communier une seconde fois qu'un mois après sa première communion. Elle obtient de son confesseur, l'abbé Monin, au bout de plusieurs années de démonstration de sa ferveur religieuse, l'autorisation de communier 4 fois par semaine, ce qui est beaucoup. C'est la pratique sacramentelle du temps. Autre engourdissement, mais qui concerne le Carmel, mais qu'il y a un engourdissement historique qui concerne le Carmel français. Il y a des épisodes dans l'histoire de l'Église qui sont curieux, mais qui expliquent bien des choses. Sainte Thérèse d'Avila a réformé le Carmel en Espagne. Le Carmel n'est rentré en France qu'à la fin du XVIe siècle, et il n'est rentré en France que à la condition que les évêques soient les supérieurs directs des carmélites, et que les aumôniers soient désignés par les évêques. Ce qui fait que le Carmel français, depuis sa fondation en France, et il y a des carmels partout en France, a été coupé de l'ordre carmélitain masculin. Je m'explique. Vous savez comme moi qu'un monastère bénédictin amène un monastère de bénédictines. Ça va dans l'ordre des choses. Qu'un monastère de Chartreux amène un monastère de Carthusienne et qu'il y a des liens spirituels d'enseignement entre les deux branches masculines et féminines d'une même famille religieuse. Bon, eh bien, ce pauvre Carmel français a subi une coupure qui a duré 3 siècles. Les Carmes, hommes, n'ont jamais pu rentrer dans un Carmel en France jusqu'à la dernière guerre mondiale. Il a fallu l'intervention de Pie XII, poussée par le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, pour que le Carmel masculin reprenne droit de prédication et une certaine autorité dans le Carmel féminin français. Alors, quelles sont les conséquences? Eh bien, c'est que le Carmel français a été coupé de ses sources vives, ses sources intellectuelles, ses sources créatrices qu'était le Carmel masculin. Et le Carmel féminin français a puisé sa spiritualité à d'autres sources qu'à la source carmélitaine authentique, et particulièrement dans l'école française de spiritualité, hein, qui a été fondée par le cardinal de Bérulle, M. Ollier, qui sont des grands personnages du XVIIe siècle en France, qui ont leurs valeurs et leurs qualités, mais qui n'ont rien de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix. Alors ça fait que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle va rentrer au Carmel, eh bien elle va rentrer dans un Carmel qui n'est pas véritablement carmélitain, mais elle n'y peut rien. Ben ça, c'est le XIXe siècle, et ces incohérences historiques, et Sainte Thérèse, si elle était restée une petite religieuse, si elle n'avait pas été inspirée par le bon Dieu et prédestinée à une mission particulière, eh bien, ça aurait été une sainte religieuse, une sainte carmélite, mais en aucun cas, elle n'aurait renouvelé la spiritualité de l'Église catholique. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'une jeune fille qui est morte à 24 ans, va dépoussiérer cet ensemble de choses que j'ai résumé ce soir. Je vais vous donner quelques points plus précis de ce qu'on peut appeler, avec Pie XI, c'est quand même l'autorité, puisque c'est le pape qui l'a béatifié, qui l'a canonisé, qui l'a en même temps proclamé patronne des missions, quelques points précis sur lesquels nous pouvons voir l'oracle nouveau. Le point premier, je ne serai pas complet, hein. Il vaut peut-être mieux. Le point premier sur lequel on peut insister, c'est la conception même de Dieu. Deus caritas est, c'est quand même fondamental. Dieu est charité. Vous vous rappelez que Mgr Lefebvre, auquel nous devons tant, avait sa devise épiscopale, nous avons cru à la charité. Bon, cette définition de Dieu, Dieu est charité, qui est la définition la plus authentique qui soit de Dieu, eh bien, on ne peut pas dire qu'elle soit même présente dans le catéchisme traditionnel. Si je vous posais la question, qu'est-ce que Dieu? Dieu est un esprit créateur, etc. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais cette présence d'un Dieu qui est à la fois créateur, mais qui est un Dieu d'amour, vous voyez, était largement absente de l'Église, particulièrement en France au XIXe siècle. Lorsque Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus fait sa retraite de première communion, première communion, c'est la communion solennelle, à l'époque il n'y en avait qu'une. Eh bien, elle note qu'elle a eu peur pendant sa retraite. Vous vous rendez compte, faire peur à une petite jeune fille qui n'a jamais commis de péché grave, avec une prédication terrifiante sur Dieu. Elle dit qu'elle en a retiré du bien. On retire toujours du bien, même d'une mauvaise retraite. Hein. Parce que quand on est obéissant et qu'on écoute, c'est déjà un effort extraordinaire. C'est ce que vous faites ce soir. Bon, au demeurant, si Sainte Thérèse s'était contentée d'écouter l'abbé Monin qui prêchait sa retraite de communion, elle n'aurait jamais redécouvert la paternité de Dieu. Dieu est notre Père. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Mais cette idée de la paternité de Dieu, elle est ensevelie, elle est présente, il ne faut pas exagérer, mais elle est largement ensevelie sous beaucoup de poussière. Suivant les endroits, suivant les diocèses, suivant les congrégations et les familles spirituelles et religieuses, nous avons au XIXe siècle un Dieu qui est le Dieu des éclairs et de la justice. Donc, qui est Zeus, avec un peu mieux, d'accord, il ne faut pas exagérer. J'exagère toujours pour me faire comprendre. Mais on en était un petit peu là. Donc, Sainte Thérèse a redécouvert la paternité de Dieu. C'est Pie XII qui a employé l'expression. Elle a redécouvert le cœur de l'Évangile, mais avec combien de charme et de fraîcheur. Il a dit ça en 1954. Elle a redécouvert le cœur de l'Évangile. Encore une fois, un pape emploie des mots précis. Redécouvrir signifie que l'on avait perdu, au moins partiellement, redécouvert le cœur de l'Évangile. Et quel est le cœur de l'Évangile? C'est essentiellement la paternité de Dieu. Sainte Thérèse y a été prédestinée, parce qu'elle est née dans une famille, c'est extraordinaire la famille Martin. Lisez le livre, les auteurs m'échappent, peu importe, un livre déjà ancien du père Pia, mais qui est un très bon livre, qui s'appelle La famille Martin. Et lisez les manuscrits autobiographiques eux-mêmes, vous verrez ce que Sainte Thérèse dit de ses parents, ce qu'elle dit de son père. Elle dit « Mes parents étaient plus dignes du ciel que de la terre ». Et si elle a eu une telle idée de la paternité de Dieu, bien sûr c'est parce qu'elle a eu l'écriture sainte entre les mains, mais c'est aussi parce qu'elle a eu un père qui s'appelait Louis Martin, et que cet homme était le prototype du vrai père. Et ses relations avec son père sont des relations extraordinaires. Là aussi, c'est une grâce du ciel. Dieu ne fait rien au hasard. Tout a une cause. Et cette redécouverte de la paternité de Dieu est largement influencée par la grande qualité morale et spirituelle de M. Martin, dont la cause à Rome est introduite, ainsi que celle de sa femme. Leur béatification approche. Mais souhaitons que ce soit déclaré vite, parce que ce sera quelque chose d'extrêmement encourageant pour tous les foyers catholiques. C'est un ménage extraordinaire. Tous les enfants vivants sont rentrés en religion, ce qui suppose une atmosphère spirituelle, mais d'un niveau que nous n'imaginons pas. Aujourd'hui, nos familles traditionnelles, je pense qu'à Lyon c'est comme à Nantes, je plaisante un petit peu, ça ne brille pas toujours par la spiritualité. Alors bon, il faut caser les enfants, alors on ne va pas organiser des rallyes, parce que le mot rallye est vraiment un peu trop mondain, mais on va quand même organiser quelques soirées, de façon à ce que... Lisez ce que Sainte Thérèse dit de ce genre de festivité. Vous verrez que ses parents ne pratiquaient en aucun cas ce genre de sport, parce qu'ils avaient trop peur pour l'âme de leur fille. Donc la paternité de Dieu, due à M. Louis Martin, entre autres, bien sûr. Enfin, il a quand même été l'élément, un élément prédisposant. La doctrine mariale. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a une doctrine mariale. On la trouve exprimée le mieux dans un très grand poème qu'elle a écrit au printemps, au mois de mai 1897, c'est-à-dire 6 mois avant sa mort. Elle est tuberculeuse déjà au dernier degré, mais elle a la force de composer « Pourquoi je t'aime, ô Marie ». Et dans ce poème, elle parle de la maternité de Notre-Dame. Et toute sa doctrine se résume en un mot, elle est plus mère que reine. Mais ça, c'est une redécouverte. C'est un oracle nouveau, parce que prenez un grand saint comme saint Alphonse de Ligorie, au XVIIIe siècle à Naples. Son plus beau livre sur la Vierge Marie s'appelle « Les gloires de Marie ». C'est bien, mais j'ai rien contre. Qu'est-ce que fait sainte Thérèse? Elle dit « Moi j'aurais peur de la Sainte Vierge si on me la présentait glorieuse. J'ai besoin qu'on me la présente comme une maman qui a souffert, qui a travaillé, qui a pleuré comme nous. » Voilà ce qu'elle dit dans « Pourquoi je t'aime, ô Marie ». Sainte Thérèse n'est pas attirée par la royauté de la Vierge Marie, mais par sa maternité. Et elle développe beaucoup ce thème de la maternité de Notre-Dame. Là aussi, ça s'explique. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a perdu sa mère à 4 ans et demi. C'est le drame de sa vie. On distingue la vie de Sainte Thérèse en 3 temps. La première enfance jusqu'à 4 ans et demi, et ensuite le choc psychologique de la perte de sa mère, qui va ne se résorber que par 2 miracles. Un premier miracle qui est le sourire de la Sainte Vierge, qui la sort d'une dépression profonde, d'une maladie grave. Ensuite, Noël 1886, c'est une période dans laquelle noire, 4 ans et demi, 14 ans, 1886, elle a 13 ans, et ensuite la troisième partie de sa vie, où elle dit avoir retrouvé l'équilibre qu'elle avait perdu entre ses 4 ans et demi et Noël 1886. Donc la perte de sa mère a été, chez Sainte Thérèse, un traumatisme inimaginable. Et ce qui explique là aussi, eh bien, sa volonté de réaliser vraiment qui est la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est maman. Et elle emploie cette expression, « Papa, le bon Dieu, maman, la Sainte Vierge ». Et là, il y a chez elle une liberté d'expression qui est étonnante au XIXe siècle. Et vous savez comme moi que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans sa piété, même dans ses écrits, mais ce n'est pas un usage liturgique, attention, emploie le tutoiement. Et Dieu sait si au XIXe siècle, c'était quand même familier. La famille Martin n'est pas une famille complètement monolithique et guindée, donc le tutoiement y est autorisé, mais qu'une religieuse carmélite tutoie Dieu, c'est quand même pas ordinaire. Et Sainte Thérèse, vous le savez, vous avez lu ses écrits, tutoie le bon Dieu. Elle vous voit la Sainte Vierge, mais elle se sent tellement plus proche de Dieu, hein, parce que Dieu est son Père, et que son Père a été celui qui l'a élevé, hein, qu'elle emploie ce tutoiement. Encore une fois, qu'il n'est pas un tutoiement de liturgie. Hein. Là encore, n'allez pas me faire dire ce que je dis pas, ou les conciliaires ne peuvent pas revendiquer Sainte Thérèse pour leur nouveau Notre Père, ou tout ce que vous pouvez imaginer. Pas du tout. Il s'agit d'âme à âme, de cœur à cœur. Et bien là, il y a une liberté. Liberté d'expression, au sens propre du mot. Familiarité, la familiarité, le sens de la famille. Nous sommes de la famille de Dieu. Et dans une famille, il n'y a pas de protocole. Ou alors, s'il y a un protocole, ce protocole est un protocole d'amour, de respect, mais essentiellement un protocole d'amour. Donc, vous voyez des redécouvertes, la maternité de la Sainte Vierge. La sainteté. Sainte Thérèse en a laissé une définition qui est extraordinaire et qui elle-même vaudrait tout un développement. Elle a dit que la sainteté ne consistait pas dans telle ou telle pratique, mais dans une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras du bon Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Reprenons, la sainteté ne consiste pas dans telle ou telle pratique. Ça, c'est la tentation naturelle de l'homme religieux, qui va faire consister sa piété dans la pratique. C'est-à-dire, je vais dire telle prière, je vais mettre telle cierge, je vais faire tel pèlerinage. La pratique, c'est extérieur. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu chercher des adorateurs en esprit et vérité. Ça ne veut pas dire des gens sans pratique, ça veut dire des gens qui ont d'abord l'esprit. Eh bien, Sainte Thérèse balaye ce primat de la pratique pour mettre le primat de l'esprit. La sainteté ne consiste pas dans telle ou telle pratique, mais dans une disposition du cœur. Je cherche des adorateurs en esprit et vérité. Disposition du cœur, c'est orientation de l'âme. Et quelle est cette disposition du cœur? Disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras du bon Dieu. Et là, c'est l'enfance spirituelle que Benoît XV a bien comprise et bien exposée avant la béatification et la canonisation faite par Pie XI. L'enfance spirituelle, c'est-à-dire que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. Et qu'à partir de là, nous avons à être humbles et petits entre les bras du bon Dieu. Voilà l'essentiel des vertus chrétiennes. L'humilité, la petitesse. Ça rejoint Saint Benoît, qui fait construire tout son édifice de spiritualité sur les degrés de l'humilité. Vous voyez, c'est une redécouverte de quelque chose qui avait déjà été dit. Et il n'y a aucune nouveauté chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais il y a de multiples redécouvertes qui font qu'on peut dire « omen novum », être humble et petit entre les bras du bon Dieu. Ensuite, continuons, conscient de notre faiblesse et confiant jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Alors, la conscience de sa faiblesse, c'est l'humilité, c'est la vérité. Sainte Thérèse mourante dira « Il me semble que je suis humble, je n'ai jamais cherché que la vérité. » Là, c'est une définition magnifique de l'humilité que Sainte Thérèse d'Avila avait donnée. Elle avait dit à peu près « L'humilité, c'est la vérité. » Sainte Thérèse mourante dit « Il me semble que je suis humble, je n'ai jamais cherché que la vérité. » La vérité, c'est la défiance de soi, c'est la confiance, c'est la conscience de notre faiblesse. C'est ne pas se faire d'illusions sur soi. Or nous, nous avons toujours tendance à nous appuyer sur nous-mêmes, à nous illusionner sur notre potentiel de vertu. Oui, j'ai fait ma retraite, je fais beaucoup de choses. C'est la tendance que nous avons. Enfin, je ne peux pas vous faire une confession générale personnelle, ni lire dans vos consciences, mais il me semble quand même qu'on donne quand même dans ce travers. Eh bien, la vérité nous libère. Conscience de sa faiblesse. Et d'autre part, confiance jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Alors, confiance jusqu'à l'audace. Alors, petit point qui prouve l'audace de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ben, l'audace, c'est le propre de la confiance. Et quand on n'a pas confiance en quelqu'un, on n'est pas audacieux, parce qu'on en a peur. Eh bien, Sainte Thérèse a été libérée de la peur. Je ne dis pas de la crainte filiale de Dieu, mais de la peur de Dieu. Oui, ben, la peur de Dieu, il faut l'évacuer de la vie spirituelle, parce que c'est un danger, parce que ça va être un obstacle à la confiance. Il faut avoir confiance. Confiance jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Monsieur Martin n'avait jamais rien refusé à Sainte Thérèse. Eh bien, Sainte Thérèse est certaine que Papa, le bon Dieu, ne lui refusera jamais rien. Alors, je vais vous lire un tout petit passage concernant Pranzini. Vous vous en souvenez sûrement, ce malheureux bandit donc, qui avait assassiné deux personnes, qui allait être guillotiné, et qui a été guillotiné, mais qui mourait dans la pénitence la plus totale. Je vous ai dit que Sainte Thérèse et Céline avaient prié pour lui, fait dire des messes pour lui. Et Sainte Thérèse avait exprimé sa confiance jusque-là. Écoutez bien. J'étais sûr que Dieu pardonnerait au pauvre malheureux Pranzini. Je le croirais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Elle était certaine que Pranzini serait pardonné, se convertirait, même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir. C'est une confiance, on peut dire, aveugle. Vous voyez, croire qu'un condamné à mort, impénitent, athée militant, sera sauvé, mais y croire dans une confiance sans limite, même s'il ne marque aucun signe de repentance et qu'il ne se confesse pas, Sainte Thérèse est certaine qu'il sera sauvé. Mais c'est ça la confiance. Mais c'est ce qui manque à nos prières. La plupart du temps, pourquoi ne sommes-nous pas exaucés? Parce qu'on n'a pas confiance. On attend de voir le résultat. Mais non, il faut avoir une confiance aveugle. Plus on a confiance, et plus nous sommes exaucés. Sainte Thérèse avait une confiance véritablement absolue. Et il y a eu un signe, elle demandait simplement un signe. Et le signe a eu lieu. Pranzini a embrassé par trois fois le crucifix que lui a tendu l'aumônier de la prison. Et quand bien même il n'y aurait pas eu ce signe, Sainte Thérèse aurait été certaine du salut de Pranzini. Et sa confiance était aveugle, vraiment au sens propre. Et contre l'apparence. On ne voit pas, mais on croit. Alors ayons cette confiance, et essayons en tout cas de la cultiver. Vous voyez, cette belle définition de la sainteté, hein, qui déménage, hein, consiste pas dans telle ou telle pratique, mais dans une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras du bon Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Autre redécouverte de Sainte Thérèse, c'est l'ascenseur. Vous vous souvenez, l'ascenseur qui est justement inventé, l'ascenseur mécanique, hein, à la fin du 19e siècle, qui permet de monter sans prendre l'escalier. La Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a mis du temps à découvrir l'ascenseur spirituel. Elle a essayé, elle aussi, de monter l'escalier de la perfection. Elle disait, j'ai essayé, mais j'y suis jamais arrivé. Alors, devant ces difficultés, devant cet effort répétitif mais qui n'aboutit pas de se sanctifier, eh bien la solution lui a été donnée par l'Écriture Sainte. C'est parce que Céline, je vous l'ai dit tout à l'heure, était venue au Carmel avec quelques feuillets de la Bible, et en particulier un petit passage du prophète Isaïe, que Sainte Thérèse a découvert l'ascenseur pour aller au ciel. Je cite, c'est dans le troisième manuscrit. Je voudrais trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai recherché dans les livres saints, la Bible, l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle, Isaïe. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. Jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. C'est ça. Et cette découverte de l'ascenseur, vous voyez, renvoie complètement la fausse spiritualité du pélagianisme. Le pélagianisme, c'était une hérésie au sens propre. Le vrai pélagianisme, c'est « je me sauve, je fais mon salut ». Le pélagianisme a été condamné par l'Église, combattu par saint Augustin, mais il y a eu dans l'histoire de l'Église une résurgence permanente du semi-pélagianisme, c'est-à-dire le primat de l'effort, le primat de l'action dans la sanctification. Eh bien, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus balaye définitivement le semi-pélagianisme en disant que celui qui va nous sanctifier, c'est Jésus-Christ. Celui qui va nous mener au Père, c'est Jésus-Christ. Et l'ascenseur, ce sont les bras de Jésus qui vont nous mener au Père. Et comment y arriver? Surtout ne pas grandir, mais rester petit, humble et confiant. Voilà la découverte qui a renouvelé la spiritualité, et donc il faut utiliser l'enseignement. Je vais dire, libre à vous si vous avez une bonne résistance cardiaque de monter 15 étages 10 fois par jour. Mais on a un ascenseur redécouvert par sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pourquoi ne pas l'utiliser? Autre redécouverte concernant le mystère de l'Église. Sainte Thérèse, c'est dans le deuxième manuscrit, vous vous en souvenez, réfléchit sur sa vocation et en arrive à parler de la charité. Et en arrive à parler de l'Église. Et vous vous souvenez que Saint Paul a parlé de l'Église comme d'un corps. Nous sommes membres du corps du Christ. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été plus loin que saint Paul. C'est Mgr Combes qui dit ça avec un peu d'audace, mais je reprends exactement ses propos. Il pense, Mgr Combes, que sainte Thérèse a une vision plus profonde que celle de saint Paul sur l'Église. Parce que saint Paul a parlé du corps mystique. Et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a compris que dans ce corps, il y avait un cœur. Et que ce cœur était brûlant d'amour. L'Église a un cœur qui l'a fait agir. Et dans ce corps, il y a un cœur. C'est la charité. Alors donc, une vision de l'Église animée par la charité, c'est une vision hautement théologique. Dieu est charité. L'Église, qui est le corps mystique de Jésus-Christ, qui lui-même est charité, est bien une société de charité. Et ce qui fait agir l'Église, c'est la charité. C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Cette charité, donc, est au principe même de la vie de l'Église, comme le sang est au principe de la vie du corps. Ensuite, autre lumière intéressante chez sainte Thérèse, c'est un éclairage sur le commandement de la charité. Rappelez-vous la façon dont habituellement nous récitons notre acte de charité. J'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Bon. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à mon avis, elle... S'il était encore là, s'il était encore de ce monde, hein, ce qui n'était pas tout à fait impossible d'ailleurs, enfin, regardez qu'elle est morte il y a seulement 100 ans. Et il y aurait peut-être un peu dépoussiéré cet acte, hein, en fonction de quoi? Eh bien, en fonction du commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est dans le troisième manuscrit qu'elle explique qu'il ne s'agit pas seulement d'aimer le prochain comme soi-même, mais de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et ça, c'est une nuance qui est une nuance très importante. C'est un progrès dans la conception de la charité fraternelle qui va très loin. Et elle l'explique magnifiquement dans le troisième manuscrit à Mère Marie de Gonzague. Ensuite, sainte Thérèse a une très grande compréhension de la miséricorde de Dieu. Vous vous en souvenez. Elle distingue dans la miséricorde une miséricorde prévenante et une miséricorde guérissante. C'est dans le premier manuscrit qu'elle raconte une petite histoire pour le faire comprendre. Et elle dit, imaginez un jeune homme qui prend un chemin, son père est médecin, et sur ce chemin il y a des pierres, et il tombe sur les pierres du chemin. Son père médecin le guérit, et le fils a envers son père une dette d'amour et de reconnaissance parce qu'il l'a guéri. Imaginez maintenant un autre jeune homme dont le père est toujours médecin, qui doit prendre le chemin le lendemain, mais le père se lève la nuit précédant la route pour enlever les pierres du chemin. Quand le jeune homme apprend que son père s'est levé la nuit pour enlever les pierres, ne va-t-il pas aimer son père davantage que le père qui a guéri l'enfant qui était tombé? Si, c'est la miséricorde prévenante. Voilà. Et c'est très intéressant. Parce que la miséricorde guérissante, c'est la miséricorde qui pardonne le péché commis. La miséricorde prévenante, c'est la miséricorde qui empêche de tomber, qui fait qu'on ne tombera pas, qui enlève la pierre pour pas qu'on tombe. Mais c'est génial, parce que ça préserve, et c'est vrai cette conception des choses, ça préserve l'âme de l'orgueil. Parce que quand on ne tombe pas, on s'imagine, je marche bien. On ne marche pas bien, c'est Dieu qui a enlevé des pierres pour qu'on ne tombe pas. Et tout est grâce. Tout est dû à la miséricorde de Dieu. Et quand on ne tombe pas, on ne peut pas s'attribuer le mérite de ne pas être tombé, mais remercier Dieu d'avoir enlevé la pierre, sans laquelle, s'il y avait été là, nous serions tombés. Eh bien, cette vision est très belle. Elle est hautement, elle est très juste et très théologique. Et elle permet même de comprendre Notre-Dame, l'Immaculée Conception, la Bienheureuse Vierge Marie. Campineuf a défini le dogme de l'Immaculée Conception. Il a dit que la Vierge Marie était rachetée, mirabiliter redempta. Et la Vierge Marie est l'objet de la miséricorde prévenante de Dieu au plus haut niveau. Il lui avait enlevé la possibilité de pécher. C'est pas un mérite anticipé de Jésus-Christ, mais la Vierge Marie doit tout à la miséricorde de Dieu, mais une miséricorde prévenante. Et c'est ce qu'elle dit dans le Magnificat. Le primat de la confiance et de l'amour dans la justification, plus que les œuvres, ce qui compte, c'est l'amour, la foi. La foi en Dieu qui est Père et qui est amour, qui engendre une confiance. Et Dieu nous aimant, nous l'aimons. Et c'est l'élément le plus fort de notre justification. La foi, l'amour. Les œuvres ne sont pas négligées chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il ne faut jamais dire une chose pareille. Et c'est là où Sainte Thérèse n'est en aucun cas récupérable par des luthériens ou des crypto-luthériens qui sont dans l'Église aujourd'hui. Il y a chez Sainte Thérèse les œuvres, c'est-à-dire les sacrifices, la fidélité dans les petites choses. Mais faites attention qu'elle ne s'appuie pas sur sa fidélité dans les petites choses pour revendiquer au tribunal de Dieu sa justification. Sa justification, elle la tient de Jésus-Christ, elle y adhère par la foi et l'amour. Mais elle fait des œuvres, non pas pour être sauvée, mais pour prouver son amour et sa fidélité à Dieu qui la rachète. Elle le dit elle-même. Dans le deuxième manuscrit, comment témoignerait-il son amour, puisque l'amour se prouve par les œuvres? Eh bien, le petit enfant jettera des fleurs. Il embaumera de ses parfums le trône royal. Oui, mon bien-aimé, voilà comment se consumera ma vie. Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour que de jeter des fleurs, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice. Aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. L'exigence de la voie thérésienne, qui est une voie extrêmement exigeante, mais les exigences sont des preuves d'amour, mais en aucun cas des moyens de se justifier. Parce que Sainte Thérèse dit ailleurs, toutes nos justices ont des taches à vos yeux. On ne peut pas s'appuyer sur sa justice. Et elle dira ensuite, lorsque je paraîtrai devant Dieu, je paraîtrai les mains vides. Je ne veux pas m'appuyer sur mes mérites pour obtenir le ciel. J'attends tout de la miséricorde de Dieu. Mais ma vie sur la terre, je l'aurais passée dans le sacrifice permanent, dans la fidélité, dans toutes les petites choses, pour prouver à Dieu mon amour. Oui. Sainte Thérèse est tout à fait dans la ligne du Concile de Trente sur la justification, mais elle balaye le pélagianisme et toutes les formes de fausse spiritualité qui pouvaient traîner et qui peuvent encore traîner dans l'Église aujourd'hui. Ensuite, le rôle du Saint-Esprit dans la direction des âmes. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'est vue confiée à l'âge de 20 ans à une charge écrasante qui est la charge de maîtresse des novices. Elle s'en sentait absolument incapable. ce qui est bon signe en général. Quand on se croit capable de quelque chose, c'est en général qu'on ne l'est pas trop. Donc, se sentant incapable de réaliser la charge qui lui était confiée, elle a demandé à l'Esprit Saint d'agir par elle, à travers elle. Et elle a été la plus docile possible à l'Esprit Saint dans ce travail d'édification et de formation des religieuses. Ensuite, la confession. C'est assez intéressant. Le sacrement de pénitence. Bon, je ne sais pas si vous êtes heureux de vous confesser. Je ne sais pas si ça vous est facile de vous confesser. Mais en général, avoir la tête des pénitents quand ils rentrent et quand ils ressortent, on a toujours l'impression que c'est vraiment le pinsum de la semaine, du mois ou des grandes fêtes, mais c'est dur. Puis ça gémit dans la rangée qui attend devant le confessionnal, hein, c'est dur. Pourquoi ? Parce que nous avons de la confession une idée très restreinte. On est gêné, oh, qu'est-ce qu'il va penser de moi, mon Dieu, hein ? C'est des vues humaines, des tas de bêtises qui gênent nos consciences. Bon. Sainte Thérèse balaye tout ce côté humain dans sa confession. Elle le raconte, elle est encore enfant. Elle rend grâce à Pauline de l'avoir si bien préparée à sa confession. Ce n'était pas à un homme, mais au bon Dieu que j'allais dire mes péchés. Ben ça libère, hein, croyez-moi. J'en étais vraiment bien convaincu. Aussi, je fis ma confession avec un grand esprit de foi. Et même, je vous demandais s'il ne fallait pas dire à Monsieur Ducellier que je l'aimais de tout mon cœur. Puis que c'était au bon Dieu que j'allais parler en sa personne. Vous voyez ? Elle a tellement compris que on se confesse à Dieu, le prêtre, c'est un miroir. Enfin, c'est quelqu'un de complètement transparent. Ensuite, elle sort du confessionnal, mais ravie. En sortant du confessionnal, j'étais si contente et si légère que jamais je n'avais senti autant de joie dans mon âme. Écoutez bien, depuis, je retournais me confesser à toutes les grandes fêtes, et c'était une vraie fête pour moi à chaque fois que j'y allais. Voilà. C'est quand même intéressant. Confession, communion. La communion était conçue par les jansénistes, les vrais, les durs, Port-Royal, comme quelque chose à faire extrêmement rarement, après de très grandes privations, une très longue préparation. De même que d'ailleurs l'absolution était complètement différée chez les jansénistes, hein, on confessait ses péchés, puis il fallait revenir 6 mois plus tard si vraiment on les avait bien regrettés, on faisait macérer, c'est une religion épouvantable, mais croyez-moi qu'elle a laissé des séquelles. Alors pour la communion, pour ce qui est de la communion, on ne communiait pas, parce qu'on était vraiment indigne de communier. On communiait que comme une récompense, à la rigueur, une récompense de la vertu. Ce qui est remarquable de noter, c'est que c'est Saint Pie X qui, vous savez, a pris des décrets libérateurs sur la communion fréquente et sur la communion des enfants, mais que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a dit ce que Saint Pie X a fait 10 ans avant. Son influence sur la vie de l'Église, là, est frappante. N'oublions pas que Saint Pie X a connu la doctrine de Sainte Thérèse. C'est lui qui a signé le décret de béatification en 1914, enfin d'introduction de la béatification. Donc ce qu'elle dit de la communion, ce fut un baiser d'amour, je me sentais aimé, je disais je vous aime. Il n'y a pas eu de demande, pas de lutte, pas de sacrifice. Depuis longtemps, Jésus et la pauvre petite Thérèse s'étaient regardés et s'étaient compris. Ce jour-là, ce n'était plus un regard, mais une fusion. Il n'était plus deux. Thérèse avait disparu comme la goutte d'eau qui se perd au sein de l'océan. Jésus restait seul. Il était le maître, le roi. Voilà, magnifique définition et conception de la communion sacramentelle. Disparaître. Parce que qu'est-ce qui nous gêne dans notre vie spirituelle ? C'est notre moi. Il faut que notre moi disparaisse. Laissons Jésus-Christ nous envahir au moment de la Sainte Communion, qu'il agisse en nous. Alors, au lieu de se casser la tête dans des prières d'action de grâce, qu'est-ce que je pourrais bien prouver aujourd'hui pour dire vraiment à Jésus que je suis content de l'avoir reçu ? Mais non, on lui dit, Seigneur, je pars, restez. Il se fait tard, restez avec nous, comme les disciples d'Emmaüs. On veut qu'il reste. Et puis nous, on va tâcher de disparaître le plus possible. Et de communion en communion, on va disparaître de plus en plus. Et Jésus-Christ va nous envahir et de plus en plus nous posséder, au sens noble du mot. Les prières, l'oraison, le chapelet, autant de sujets que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aborde et auxquels elle donne un souffle nouveau, un oracle nouveau. des paroles libératrices sur la prière. Écoutez bien, la prière, c'est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. C'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Nous, on dirait la prière, c'est prendre mon livre bleu, prendre le livre vert, prendre mon missel. Et on va se perdre dans des pratiques. C'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel. Oui, vision libératrice de la prière. Ensuite, vis-à-vis du chapelet. Alors ça, c'est une parole consolante pour ceux qui ont des difficultés à dire le chapelet. La récitation du chapelet me coûte plus que de mettre un instrument de pénitence. Je sens que je le dis si mal. J'ai beau m'efforcer de méditer les mystères du rosaire, je n'arrive pas à fixer mon esprit. Longtemps, je me suis désolé de ce manque de dévotion qui m'étonnait, car j'aime tant la Sainte Vierge, qu'il devrait m'être facile de faire en son honneur des prières qui lui sont agréables. Maintenant, je me désole moins. Je pense que la Reine des Cieux étant ma mère, elle doit voir ma bonne volonté et qu'elle s'en contente. Ouais, c'est beau. Elle a tellement confiance dans maman, la Sainte Vierge, qu'elle se dit, la Sainte Vierge sait très bien que le chapelet c'est dur pour moi. Si j'y arrive pas, elle le comprend, parce qu'elle m'aime, elle me connaît. Voilà ce qu'elle dit, comme remède à la difficulté de dire le chapelet. Lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour venir au bon Dieu, je récite très lentement un Notre Père, et puis un Je vous salue Marie. Alors, ces prières me ravissent, elles nourrissent mon âme bien plus que si je les avais récitées précipitamment une centaine de fois. Oui. C'est clair, et c'est dans le troisième manuscrit, donc écrit pour Mère Marie de Gonzague. Bon, on pourrait encore parler longtemps, mais c'est pas la peine. Je pense avoir abordé suffisamment de sujets pour vous montrer combien Sainte Thérèse est en toute vérité une parole vivante de Dieu et surtout un oracle nouveau, selon l'expression de Pie XI, et qu'elle a redécouvert le cœur de l'Évangile et véritablement dépoussiéré la vie sacramentelle, la vie de prière et la vie de sanctification dans l'Église. Monseigneur Picot, qui était évêque de Bayeux-Lisieux, il y a maintenant un évêque à Bayeux-Lisieux qui s'appelle Monseigneur Picant, hein, qui est beaucoup moins sympathique que Monseigneur Picot. Eh bien, Monseigneur Picot, lui, était évêque de Bayeux-Lisieux, et en 47, c'est-à-dire pour le cinquantenaire de la mort de Sainte Thérèse, a écrit une lettre pastorale, dans laquelle il explique justement ce que c'est qu'un oracle nouveau. Non à la vérité que Thérèse ajoute quoi que ce soit au dépôt de la révélation, parachevée à la mort du dernier apôtre, mais par sa vie et sa doctrine. Elle attire l'attention et met l'accent sur un certain nombre de vérités dont l'emprise se relâchait sur les âmes chrétiennes. Ainsi nous amène-t-elle à mieux comprendre l'Évangile pour en vivre avec plus de plénitude. Voilà, c'est ça l'oracle nouveau. C'est donc pas une préfiguration des déviations du concile et de l'après-concile. Mais c'est une voie de sanctification que l'Église a empruntée et qu'elle continue d'emprunter. Pour conclure, insistons sur le fait que Sainte Thérèse a véritablement une doctrine spirituelle. Alors cela a été dit par Mgr Combes, qui a remarqué combien de fois le mot comprendre, revient chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et il dit, cette sainte a eu en permanence des grâces d'intelligence des mystères de la foi, la compréhension. Ce n'est pas des petites recettes, c'est des compréhensions de mystères. Donc, qui dit compréhension, dit intelligence, dit doctrine. Le Père Petitot, en 1925, disait déjà, la doctrine de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la doctrine, s'impose dès aujourd'hui à l'examen de tous les esprits qui sont attentifs aux évolutions et aux progrès de la vie spirituelle. Citation encore plus forte du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, en 1947, c'était pour le cinquantenaire. À chaque tournant de l'histoire, l'Esprit Saint place un guide. À chaque civilisation qui se lève, il donne un maître chargé de dispenser sa lumière. L'Église a eu ainsi saint Augustin, saint Benoît, saint François d'Assise, saint Dominique, sainte Thérèse, saint Ignace et les autres. Au seuil de ce monde nouveau qui s'annonce plus grand et plus puissant que les précédents, parce qu'il embrasse et a compris l'univers, Dieu a placé Thérèse de l'Enfant Jésus, 47, pour révéler et faire aimer l'amour, pour organiser une légion innombrable de petites âmes ayant expérimenté l'amour et capable d'en mener ici-bas les rudes combats. Et il ajoute, il est toujours dangereux de prophétiser, mais est-ce prophétiser que d'exprimer nos pressentiments à tous, notre conviction qui s'appuie sur l'œuvre déjà réalisée, sur l'étendue du champ où elle s'exerce qui n'est autre que l'univers entier, sur la puissance et la pureté de la lumière qui jaillit, et d'affirmer que Thérèse sera et est déjà parmi les plus grands maîtres spirituels de l'Église, parmi les plus puissants conducteurs d'âmes de tous les temps. C'était en 47 que le père Marie-Eugène disait cela. 1932, un très grand congrès à Lisieux, congrès thérésien. Un jésuite, directeur de l'Action populaire, le père Débucois, prend l'initiative, poussé par d'autres théologiens, de demander au pape Pie XI la proclamation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église. Cette démarche est soutenue par plus de 600 évêques. 600 évêques en 1932-1933. Bon, le pape Pie XI n'a pas acquiescé à cette demande. Pourquoi ? Parce que les esprits n'étaient certainement pas mûrs, la thérésiologie n'avait pas fait les progrès suffisants, et l'Église de ce temps n'était peut-être pas encore tout à fait apte, parce que le monde de ce temps n'était pas tout à fait apte à admettre qu'une femme puisse être déclarée docteur de l'Église. Donc la cause du doctorat de Sainte Thérèse est restée un petit peu en veilleuse de 1935, 33-35 jusqu'aux années 70 où la pompe s'est réactivée. Parce que 70, c'est les éditions dont je vous ai parlé tout à l'heure, les œuvres authentiques qui paraissent. Et 1970, c'est le pape Paul VI qui déclare docteur de l'Église Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Catherine de Sienne. On peut en aucun cas dire que Paul VI a innové en déclarant Sainte Thérèse d'Avila docteur. En effet, deux papes du XVIIe siècle, Grégoire XV et Urbain VIII, avaient déjà parlé de Sainte Thérèse d'Avila, dans des écrits, comme d'une véritable docteur de l'Église, des papes du XVIIe siècle. Puis Paul VI a pris une initiative forte en la déclarant officiellement docteur de l'Église, et à partir de là, la voie de femme déclarée docteur était ouverte et la cause du doctorat de Sainte Thérèse a continué d'avancer, a progressé. Les pétitions se sont développées dans l'épiscopat mondial et même auprès de très nombreux fidèles et théologiens. Et tout cela aboutit à la déclaration dernière faite par le pape Jean-Paul II le 19 octobre 1997 du doctorat de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est pour l'Église... Et c'est là-dessus que je voudrais terminer, quelque chose d'extrêmement important. Parce que si pendant des années, on a considéré Sainte Thérèse comme une sainte, on n'a pas suffisamment considéré l'importance de son enseignement. Des théologiens l'ont fait, je vous en ai parlé, je vous les ai cités, et ce que je vous ai dit ce soir est le résultat de leurs travaux. Mais il fallait que l'Église entière s'intéresse à l'enseignement de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'on ne la regarde pas simplement comme une sainte, comme, je ne sais pas, Sainte Rita, Sainte Claire, Sainte Bernadette Soubirous. C'est pas ça, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a un enseignement, elle a un corps de doctrine. Eh bien, il était essentiel pour l'avenir de l'Église que le pape proclama Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église. À partir de là, aucun catholique ne peut plus considérer Sainte Thérèse, je veux dire, comme une sainte comme une autre. Un docteur, c'est quelqu'un qu'on doit écouter, qui a un enseignement. Et cet enseignement, je vous ai montré combien il est un oracle nouveau, combien il est sanctificateur de l'Église, et combien surtout, et c'est là-dessus que je vais conclure, son enseignement nous permettra de sortir de la crise de l'Église. Et comment ? Si nous attendons un miracle, il faut attendre un miracle. Je crois que nous pouvons attendre longtemps. Et par contre, nous pouvons coopérer au miracle. Comment ? Eh bien, par l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je vous l'ai dit, a compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Et elle a compris aussi que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile. Les martyrs refuseraient de verser leur sang. Eh bien, s'il y a une crise dans l'Église aujourd'hui, c'est que l'amour s'est éteint. Si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Eh bien, pour que les apôtres annoncent l'Évangile, pour que les martyrs versent leur sang, il faut que l'amour circule. Et pour que l'amour circule dans l'Église, il faut s'offrir comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux. Cet acte d'offrande que Sainte Thérèse a rédigé en 1895 et qui est très célèbre a une dimension ecclésiale. C'est pas seulement un moyen de se sanctifier soi-même, c'est un moyen de vivifier l'Église. L'Église vit d'amour. Si l'Église est malade, c'est qu'elle est malade dans son cœur. Parce que la charité n'y brûle pas suffisamment. Eh bien, si nous voulons coopérer, et nous devons, c'est notre vie, hein, nous aimons l'Église, nous aimons Dieu, eh bien, coopérer au véritable renouveau de la Sainte Église, eh bien, le moyen, il est thérésien, l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, afin que les flots de tendresse infinie renfermés en Dieu se déversent sur la terre et animent l'Église. Eh bien, je souhaite que les quelques paroles que j'ai pu vous dire ce soir vous encouragent à mieux connaître cette sainte. Ne vous contentez pas de l'édition Fleurus, de la bande dessinée classique. Hein. Allons au texte, allons à l'authentique. Découvrons dans les manuscrits, c'est déjà largement suffisant, hein, tout son enseignement. Et surtout, mettons-le en pratique dans notre vie spirituelle, dans notre façon de nous confesser, notre façon de communier, notre façon d'envisager notre sanctification. Et surtout, dans notre façon de concevoir l'Église. Et sa crise est le remède à la crise de l'Église, qui est un remède surnaturel. L'Église est une société surnaturelle, oui ou non? C'est pas un parti politique, l'Église. Un parti politique, on coupe la tête, on déménage quelques personnages et ça va. L'Église, elle a besoin hein, d'amour, elle a besoin de charité, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et elle ne sera bien, elle ne redeviendra normale que par une sanctification des fidèles, des prêtres, des évêques. Et du pape lui-même, bien sûr, hein, selon, à mon avis, cet enseignement de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous savez, quelquefois, je ne sais pas si le pape Jean-Paul II est conscient de l'importance de l'acte qu'il a posé. J'ai lu son discours qui a accompagné la proclamation du doctorat. Mais ce qui est certain, c'est d'abord qu'il a quand même compris quand même énormément de choses sur elle. Lentement, hein, le début de son pontificat, il n'en parle pas, il est passé à Lisieux en 80, il a dit 2-3 bricoles, mais rien. Donc il y a eu un cheminement dans son esprit. Mais quand bien même, lui-même ne cheminerait-il pas suffisamment dans le bon sens, ce qui est évident, on le voit encore. Il a posé l'acte hein, qui va faire en sorte que l'Église aille mieux après lui, demain. Mais si nous écoutons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est docteur de l'Église. Elle a donc un enseignement capital. Prions pour que le pape lui-même en tienne compte et que nous, déjà, parce que nous, ça nous concerne, hein, on est responsable de soi. Mais si on prend vraiment le taureau par les cornes et qu'on se dit, je vais maintenant suivre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, son itinéraire spirituel pour ma sanctification et pour le bien de l'Église et le salut des âmes, eh bien nous pouvons véritablement espérer un vrai renouveau de l'Église. Elle l'a dit, c'est inscrit dans le tympan de la basilique de Lisieux, « Je reviendrai, j'aiderai les prêtres, j'aiderai les missionnaires, j'aiderai toute l'Église. » Eh bien, c'est parti.